Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station, le mercredi, sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Rare mais pas invisible, c'est le slogan de cette émission. Nous sommes sur IDFM Radio tous les mercredis jusqu'à 22h sur les 98 FM en Ile-de-France et en DAB+. Et sur Facebook, toujours Instagram, X, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix sur notre page, notre co, notre site, notre appli Big Bang Station. Big Bang Station, c'est depuis 1997 un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs histoire, juridique, bien-être, musique, culture, pop collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons de maladies rares. Petit Manu nous fera remonter à l'origine des maladies rares, au moment où la médecine a commencé à les nommer et à les distinguer du reste. Plus une maladie est rare, moins elle est visible, et plus la discrimination est difficile à nommer. Que faire si vous en êtes victime ? Rappel de la loi avec Marie-Christine.
Que faire quand vous êtes victime d'une discrimination, quand vous avez une maladie rare ? Je vais tout vous expliquer.
Comment savoir si on est atteint d'une maladie rare ? Pour répondre à cette question, notamment, nous aurons Daniel Sherman, directeur de la fondation Maladies Rares au téléphone. Comment vivre autrement avec une maladie rare ? Ponari nous donnera quelques conseils.
Salut Didier, salut à tous. Et si vivre avec une maladie rare n'était pas seulement un défi quotidien, mais aussi une chance de se reconnecter à soi et de cultiver sa force intérieure. A tout de suite.
Et pour notre page culture, Kevin nous proposera un quiz des chanteurs décédés d'une maladie rare.
Tout à fait, salut Didier, salut à toutes et à tous. Et oui, parce que certains chanteurs ont préféré cacher leur maladie au public. Malheureusement, certains en sont décédés. Qui sont-ils ? Je vous en ai sélectionné quelques-uns dans mon quiz que nous allons écouter tout à l'heure.
Enfin, Eric reviendra sur la maladie rare de Stephen Hawking, représentée dans la pop culture.
Salut Didier et salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Stephen Hawking, le célèbre scientifique connu aussi dans le monde de la pop culture. Et je vais vous en dire un peu plus dans ma chronique.
Et l'émission est réalisée par Didier, bien sûr.
Didier.
On estime qu'environ 300 millions de personnes vivent avec une maladie rare, soit 4% de la population mondiale, donc soit bien plus que par exemple l'émission qu'on avait fait sur l'épilepsie. Mais la reconnaissance médicale des maladies rares est très récente. Petit Manu nous raconte l'histoire de ces pathologies longtemps ignorées.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama.
Donald Trump. Hillary Clinton.
David Bouillet. Joe Cocker. Justin Timberlake.
Lady Dada.
Sakina. Oui, Kendrick.
Retrouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les travaux, ça. Non. Ce que représentent les maladies rares. Tout commence au 19e siècle. Les médecins observent que des patients ont des symptômes bizarres, uniques, mais impossible de les classer. En 1886, le neurologue français Gilles de la Tourette décrit pour la première fois le syndrome portera son nom. C'est le début d'une longue liste de découvertes, mais le vrai tournant, c'est en 1983, l'américain Abbé Meyers, dont le fils souffre de la maladie de la Tourette, se bat pour obtenir des traitements. Elle invente alors le terme « la maladie orpheline », des pathologies si rares que les laboratoires et les abandonnent faute de rentabilité. Son combat aboutit par l'Orphan Drug Act. C'est la première loi au monde qui entourage la recherche sur les maladies rares, en osant les avantages des laboratoires. L'Europe suit en 2000 avec son propre règlement. En 1997 marque une longue étape de création de la première journée internationale des maladies rares. Le 29 février, une date rare pour des maladies rares. Aujourd'hui, cette journée mobilise le monde entier. Résultat, on est passé de quelques pathologies identifiées au 19e siècle à plus de 70 000 maladies rares reconnues. Aujourd'hui, surtout dans les traitements de entre 1980 à plus de 2000 médicaments disponibles actuellement. Une belle revanche pour ces maladies orphelines qu'ont trouvé leur famille médicale.
Merci Petit Manu. Les chiffres sont sans appel. Selon une étude récente du Défenseur des droits, une personne sur six atteinte de maladies chroniques, et les maladies rares en font partie, a déjà été victime de discrimination dans l'emploi. Quels sont vos recours et vos droits ? Marie-Christine fait le point.
Loi, réglementation, Marie-Christine vous dit tout.
Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas faire, oh là là, entre nos connaissances et la réalité.
Vous êtes-vous demandé quels codes garantissent la qualité et la sécurité de ces délices incontournables? Eh bien, accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble les règles, la réglementation.
On écoute toujours Marie-Christine avec la plus grande attention. Oh là là, l'expérience de la vie, la maturité.
Alors, comment se manifeste une discrimination suite à une maladie rare? La loi est la même que pour une maladie reconnue. Heureusement, la loi française est claire et protectrice. Le Code du travail l'affirme sans ambiguïté. Aucune discrimination fondée sur l'état de santé n'est tolérée.
Oui, mais alors c'est vrai que maladie rare, du coup, ça doit être plus difficile.
Eh oui, que ce soit au recrutement, pendant l'emploi et pour promotion ou un licenciement. Plus encore, depuis 2005, tous les employeurs français, quelle que soit la taille de leur entreprise, ont une obligation d'aménagement raisonnable. Qu'est-ce que cela signifie ? Concrètement, l'employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour permettre à un salarié porteur d'un handicap ou d'une maladie chronique de travailler dans des conditions adaptées sans que cela représente une charge disproportionnée pour l'entreprise. Il y a aussi des maladies rares qui ont des symptômes manifestes. La personne qui a des migraines ou... Enfin, je ne sais pas si
c'est... Non, ce n'est pas une maladie rare.
C'est pas une maladie rare, mais enfin, il y a des symptômes qui existent, on s'aperçoit qu'ils sont vraiment dans l'incapacité de travailler, on va dire. Pour une maladie rare, on entre dans ce que le droit appelle, sans le dire, un angle mort cognitif. Qu'est-ce que c'est ? Une incompréhension, suspicion, banalisation, ça ne se voit pas. Ou au contraire, une dramatisation. Résultat, refus d'aménagement au motif que la pathologie est mal définie, pression informelle sur les absences, mise à l'écart déguisée, carrière figée sans trace écrite exploitable juridiquement. La loi n'est donc pas discriminante, mais le système, lui, peut l'être. Autre point clé, la reconnaissance administrative. Une maladie rare n'est pas automatiquement un handicap reconnu. Le salarié reste juridiquement protégé contre la discrimination, donc la reconnaissance du handicap. Mais beaucoup plus exposé en pratique car il lui manque les leviers concrets. Obligation d'aménagement, statut clair et traçabilité. Plus une maladie est rare, moins elle est lisible et plus la discrimination est difficile à nommer, donc à sanctionner. Mais si vous êtes victime de discrimination liée à votre état de santé, vous n'êtes pas seul. Le défenseur des droits vous aide, une institution indépendante qui peut vous accompagner gratuitement, les représentations du personnel, le CSE, les délégués syndicaux peuvent intervenir, le médecin du travail, qui est un allié essentiel pour faire constater les besoins d'aménagement, et un avocat spécialisé en droit du travail pour aller devant le conseil des prud'hommes. La bonne nouvelle, la charge de la preuve est partagée, vous devez simplement présenter des éléments, supposer que vous avez une discrimination, des emails, témoignages et des différences de traitement. C'est ensuite à l'employeur de prouver que ces décisions sont objectives et non discriminatoires. Voilà ce que je peux vous dire sur les droits et les recours en maladie rare.
Merci Marie-Christine. En France, 4,5% de la population sont touchés par une maladie rare. En moyenne, jusqu'à 25% des personnes atteintes attendent au moins 5 ans pour obtenir un diagnostic précis, ce qui illustre les difficultés de repérage et de prise en charge. Comment savoir si on est atteint d'une maladie rare? Pour répondre à cette question, notamment, nous avons Daniel Sherman, directeur de la Fondation Maladie Rare, au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quelles sont les maladies rares les plus fréquentes? Je sais que ça peut paraître un peu bizarre comme question, mais est-ce qu'il y a des maladies rares qui se détachent du lot?
Oui, il y a un très grand éventail dans la rareté des maladies dites rares. En fait, c'est une définition légale qui permet de privilégier la recherche et le développement de médicaments pour les maladies les moins fréquentes. Alors, parmi les maladies rares que l'on connaît, parce que malgré tout, elles sont assez présentes, il y a la mucoviscidose ou la dystrophie Duchenne, qui est une des maladies cibles de l'AFM Téléthon. Mais vous avez des maladies beaucoup, beaucoup plus rares qui touchent parfois une personne sur 1 million et pour lesquelles seule la solidarité peut compter car, bien entendu, il n'y a aucun profit à développer un médicament pour ces maladies qui concernent si peu de malades.
Alors, comment on savoir si on est atteint d'une maladie rare? Parce que si elle n'est pas reconnue en tant que maladie rare...
Eh bien, tout simplement, si quelqu'un est en bonne santé, on ne se pose pas la question. Si quelqu'un a une maladie, eh bien, les professionnels vont identifier si cela tombe dans les catégories des maladies qu'on connaît parmi les plus fréquentes. Ou sinon, s'il y a suspicion d'une maladie dont on ne comprend pas la raison, eh bien, il y a des centres spécialisés qu'on appelle les centres de référence maladies rares et des centres de compétences maladies rares qui viennent au secours secours du médecin généraliste pour essayer de comprendre si on tombe dans le cas d'une des 8000 maladies rares actuellement identifiées.
Et maladie rare, ça veut dire maladie non reconnue ou ça veut dire maladie reconnue mais où il n'y a pas tellement de traitement?
Ça veut dire maladie reconnue, identifiée, sur laquelle on peut mettre un nom, mais qui touche un nombre très limité de personnes.
D'accord.
C'est-à-dire moins d'une personne sur 2000. Voilà la définition légale des maladies rares. Alors, il se trouve que la plupart, 95% des maladies rares sont sans traitement.
Quelles sont les missions de la Fondation Maladies Rares, autres, je suppose, que d'aider à identifier une maladie comme rare?
Alors nous sommes dans le domaine d'identification de maladies qui sont encore inconnues, des gens qui ont des troubles, des symptômes sur lesquels on ne peut pas mettre un nom ou identifier un type de maladie. Et nous finançons des études qui font appel à la génétique ou à d'autres techniques biochimiques pour essayer de comprendre la cause de la maladie rare qui, bien souvent, est d'origine génétique, dans la très grande majorité des cas, 90% je dirais. Mais nous finançons aussi des recherches pour trouver des traitements. Nous finançons des recherches dans les laboratoires académiques pour trouver des modèles expérimentaux permettant de rechercher des traitements. Et nous finançons aussi des recherches dans le domaine des sciences humaines et sociales, car dans l'attente d'un traitement, eh bien, les communautés de patients nous ont fait comprendre que des aides de type sociologique ou psychologique permettaient d'améliorer le quotidien des malades en attendant une solution thérapeutique, qui peut prendre parfois des années.
D'accord, je suppose qu'on vous a déjà contacté pour savoir si la personne était atteinte d'une maladie rare et que finalement ce n'était pas du tout une maladie rare. Je suppose qu'il y a beaucoup de, je dirais pas de fantasmes là-dessus, mais peut-être de gens un peu hypochondriaques qui se disent « Ah ça y est, ça tombe dans une maladie rare » alors qu'en fait ça n'est pas du tout le cas.
On a reçu ce genre de demande, mais nous sommes une fondation de coopération scientifique, donc nous-mêmes, nous ne faisons aucun diagnostic médical. Par contre, de temps en temps, nous orientons les personnes vers des centres de référence ou des centres de compétences en disant, voilà, là-bas, vous trouverez peut-être la solution à la question qui vous occupe. Nous travaillons surtout beaucoup avec les associations de patients, car pour chaque maladie, les patients se regroupent en associations de patients visant à améliorer le quotidien, à traiter ou même à financer la recherche dans le domaine spécifique de l'une des 8000 maladies rares qui les concerne spécialement. Et nous les conseillons sur le plan scientifique, sur le plan de la recherche.
D'accord.
C'est ainsi que nous intervenons avec les malades. Beaucoup plus que, dans l'exemple que vous avez cité, nous ne sommes pas une fondation qui conseille sur le plan médical.
D'accord, oui, je suppose qu'il faut une validation déjà médicale. Et ensuite, peut-être que comment faire reconnaître du coup qu'une maladie soit rare?
Alors, les médecins savent si une maladie est rare. D'ailleurs, il y a même une banque de données qui s'appelle Orphanet, O-R-P-H-A-N-E-T, sur Internet. Les gens tapent Orphanet et il y a la liste des 8000 maladies rares, ainsi que les centres de référence, les centres de compétences, éventuellement les solutions thérapeutiques existantes. Tout cela est ouvert. Nous-mêmes, nous intervenons plutôt, comme je vous l'ai dit, en relation avec, je dirais, une autre organisation qui s'appelle l'Alliance Maladies Rares, qui regroupe plus de 250 associations de patients.
D'accord.
Et donc nous sommes un peu le volet scientifique et recherche. Nous portons une assistance scientifique aux associations de patients à travers nos liens avec ces associations et avec l'Alliance Maladies Rares. Et globalement, nous, notre rôle, c'est de financer de la recherche dans les universités, les laboratoires du CNRS et d'INSERM pour faire avancer les solutions thérapeutiques et le quotidien des patients.
Bonjour. Je voulais vous poser la question si il y a eu beaucoup de progrès dans la recherche génétique et quels sont-ils? Ou bien les cellules souches, est-ce que tout ça peut aider à orienter, à trouver des solutions thérapeutiques?
Alors, le domaine des maladies rares est un domaine pendant lequel qui bouge beaucoup et dans lequel il y a beaucoup d'innovations. Et je dirais même que parfois, les techniques qu'on développe pour les maladies rares sont à la pointe de l'innovation. Par exemple, des techniques qui ont été développées, qui ont mis 10 ans ou 15 ans à être développées pour trouver des solutions dans les maladies rares, se sont trouvées être fondamentales pour la mise au point du vaccin contre la Covid-19 ou pour des nouveaux traitements révolutionnaires contre le cancer. Tout ça a été facilité parce que les solutions techniques avaient été développées pour les maladies rares. Donc c'est un domaine qui évolue beaucoup, qui est à la pointe de la science, et dans lesquels il y a beaucoup d'innovations thérapeutiques. et qui sont ensuite utilisables pour le plus grand nombre.
Et du coup, est-ce qu'il y a des maladies rares qui sont devenues des maladies communes parce que finalement, il y a eu beaucoup, beaucoup plus de personnes touchées ?
Pas à ma connaissance, mais il est vrai, si vous voulez, que je connais des cas, comme par exemple des maladies qui s'appellent les troubles de l'hypercroissance à l'hôpital Necker, qui ont été identifiés à l'hôpital Necker et dont un médicament a été identifié par le professeur Guillaume Canot. Et ensuite, il y a eu beaucoup de bruit autour de cette découverte, qui était liée à une mutation génétique bien précise, qui s'appelle la mutation PIK3CA. Bon, je vous passe le jargon. Mais ensuite, du monde entier, les gens ont cherché chez leurs malades et ils ont trouvé cette même mutation PIK3CA chez de nombreux malades. Et donc, ces maladies qu'on croyait ultra rares, on s'aperçoit que finalement, elles touchent un nombre assez important de gens, mais elles restent tout de même dans le domaine des maladies rares, c'est-à-dire dans une proportion de moins de 1 sur 2000. Il n'y a pas, à ma connaissance, de maladies rares dont l'identification chez un plus grand nombre les a fait passer hors de la catégorie maladies rares.
Oui. Je voulais savoir aussi si vous avez réussi à toutes les identifier maintenant dans le monde entier, ou s'il y en a d'autres qui apparaissent.
Disons qu'on en découvre toutes les semaines ou tous les mois. La population humaine est grande et il y a des maladies qui apparaissent, simplement parce qu'il y a des erreurs génétiques qui se font à la naissance. Donc, on est encore en train de rechercher les causes de diverses maladies et on en est à 8000. 7500, je dirais, mais il y a encore des maladies dont on ne comprend pas, on a mis un nom dessus, mais on ne comprend pas l'origine génétique, on ne comprend pas la cause de la maladie. Donc, il y a dans ce qu'on appelle des variantes de signification inconnues, donc des maladies dont on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui cause la maladie. Sinon, dans environ, 7000 maladies rares, 90% des cas, on connaît maintenant la cause qui se trouve au niveau de l'ADN de ces maladies. En tout cas, le nombre de maladies rares n'est pas fermé. Il est fort improbable qu'on continue à en trouver, hein, parce qu'elles sont tellement rares que parfois on les observe tout simplement. Il y a un cas qui est décrit et dans le monde, les médecins sont très organisés. D'autres médecins se disent, trouvent, tiens, j'ai les mêmes symptômes. Et ça finit par catégoriser une nouvelle maladie rare.
Et certaines maladies qui touchaient très peu de monde au début et ensuite beaucoup plus, je pense au Covid, au sida, elles n'ont jamais été classées maladies rares.
Jamais. Mais par contre, il y a des maladies communes dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'on mettait un nom parce que les manifestations, les symptômes étaient les mêmes. Mais en fait, derrière cette maladie à symptômes identiques se cachait un groupe de maladies dont certains sous-groupes sont des maladies rares. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des mutations qui vous donnent une maladie, qui touchent une population rare, mais en fait, par exemple, sous le nom d'arthrite, eh bien, vous avez des maladies très communes, qu'on désigne comme étant de l'arthrite, mais vous avez aussi des cas très rares de maladies arthritiques. Je prends un autre exemple, la maladie de Parkinson, qui touche les personnes âgées, eh bien, il y a des familles qui développent des maladies de Parkinson, ce sont des cas très rares, Il y a des mutations génétiques. Maintenant, le nombre de patients atteints de Parkinson est quand même assez important. Donc, ça n'est pas classé comme une maladie rare, mais les familles à Parkinson d'origine génétique, ce sont des maladies rares. On les appelle tout de même des maladies de Parkinson.
D'accord. Eh bien, merci Daniel Sherman, directeur de la Fondation Maladies Rares.
Je vous remercie infiniment et nous avons un site, fondation-maladiesrares.org. Vous êtes tous invités à consulter notre site et voir un peu ce que l'on fait.
Voilà, qui apparaît sur le podcast. Merci encore.
Merci.
Merci à vous.
Comment vivre avec les symptômes d'une maladie rare, bénéficier de l'écoute et du soutien et surtout découvrir les clés pour cultiver le bien-être malgré la maladie? Comment apprendre à respecter son corps, gérer sa fatigue, se reconnecter à soi-même pour mieux se comprendre? Comment accompagner ceux qui vivent avec une maladie rare? Réponse dans la chronique de Ponari. Et retrouver la chronique bien-être...
Bah de Ponari, et puis je peux vous dire qu'elle assure, elle nous voit, on est rempli d'émotions, les yeux, on est captés sur elle.
Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être bien avec moi-même?
Et même des fois on a failli pleurer d'émotions.
La chronique bien-être de Ponari.
On les appelle rares, mais pour la personne qui les vit, ce n'est pas rare du tout. C'est quotidien, c'est parfois invisible, c'est souvent incompris. Les maladies rares, ce sont des pathologies qui touchent un petit nombre de personnes, mais il en existe des milliers. Résultat, beaucoup de patients passent par ce que l'on appelle l'errance diagnostique. Des mois, parfois des années, à chercher des réponses, à expliquer sa fatigue, ses douleurs, ses symptômes, et à entendre parfois « c'est dans votre tête ». Et là, le bien-être, on se dit que c'est impossible. Mais le bien-être dans ces situations, ce n'est pas être toujours positif, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Le bien-être, c'est apprendre à se respecter, à s'écouter, à se soutenir, même quand c'est difficile. Le premier postulat, c'est que le corps n'est pas l'ennemi, il est un messager. Même quand il fait mal, même quand il ralentit, même quand il impose des limites, il essaye de nous dire quelque chose. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de douceur. Alors parfois, le vrai courage, c'est de se dire « aujourd'hui, je fais moins, mais je fais de mon mieux ». Deuxièmement, la fatigue n'est pas de la paresse, la douleur n'est pas un caprice et le besoin de repos n'est pas une faiblesse. On vit dans une société qui applaudit la performance, mais quand on vit avec une maladie rare, la performance, ça peut être juste se lever, se laver, respirer, manger, tenir une conversation, et ça, ça mérite du respect. Troisièmement, le bien-être, c'est aussi reprendre un peu de pouvoir, pas sur la maladie, mais sur ce qu'on met autour. Ça peut être créer une routine douce du matin, faire une respiration lente quand l'angoisse monte, choisir des relations qui soutiennent au lieu d'épuiser, et dire non sans culpabiliser. S'autoriser également à demander de l'aide et célébrer surtout les petites victoires. Parce que oui, il y a des jours où le corps gagne et il y a des jours où l'âme tient la main du corps. Et puis, il y a un point essentiel, ne pas rester seul. Le soutien, ce n'est pas un luxe, c'est un soin à part entière, un médecin à l'écoute, une association, un groupe de parole, une amie, un proche, un thérapeute. Même une personne qui dit simplement « je ne comprends pas tout, mais je suis là », ça peut changer une journée entière. Et à toi qui m'écoutes, si tu vis avec une maladie rare, tu n'as pas à prouver que tu souffres pour être légitime. Tu n'as pas à être fort tout le temps. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit d'être en colère. Et tu as aussi le droit d'être heureux, de rire, d'aimer, de rêver. Parce que tu n'es pas une maladie, tu es une personne entière, avec une histoire, une lumière, une valeur. Alors ma petite intention bien-être, c'est celle-ci. Je m'écoute sans me juger, je m'accompagne avec douceur. Et je me rappelle que chaque petit pas compte. Prenez soin de vous, et si vous en avez besoin, respirez. Vous n'êtes pas seul.
Merci Ponari. Allez, avant d'ouvrir notre page culture pop avec Eric et musicale avec Kevin, je vous propose d'écouter un titre issu du quiz de Kevin.
Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou ne pas savoir quand viendra la fin? C'est toi qui choisis de rester, me laisser ici, en douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien. Que veux-tu que je fasse, m'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace? Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire étendu si loin sur le mien. Écris l'histoire. À genoux, parti ou par terre, à tes pieds pour avoir l'air de ne pas être rien. Faut-il que j'arrête un mot et je n'en fais qu'à ta tête? Je disparais, change de planète, sauf si tu me retiens. Que veux-tu de moi? J'attendrai que tu me le dises, un amour ou pas. Quelqu'un qui te demande à toi, voudrais-tu de moi? Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes.
Et nous ouvrons notre page culture pop et musicale, commençons par de la musique. Derrière les airs que l'on fredonne et les mélodies qui nous accompagnent, il y a parfois des destins hors normes marqués par la maladie. Certains artistes ont créé, joué, chanté malgré des pathologies rares, longtemps méconnues du grand public. C'est le cas par exemple de Michel Petrucciani, immense pianiste de jazz disparu à 36 ans, atteint dès la naissance d'une maladie génétique rare qui fragilisait ses os, mais qui ne l'a jamais empêché de devenir un géant de la musique. Qui sont les autres artistes qui ont vu leur destin se briser à cause d'une maladie rare? La réponse dans le quiz de Kevin.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. Attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Oui, là, je vais me porter sur un truc.
Mais
Eh bien, chez les artistes, notamment en France, la maladie est souvent un sujet tabou car il y a des artistes qui n'osent pas évoquer leur maladie en public, à l'exception de certains artistes. Hein. Je peux citer notamment Johnny Hallyday qui avait dévoilé qu'il souffrait d'un cancer du poumon. Même Florent Pagny qui souffrait également d'un cancer du poumon, ils l'ont dévoilé au grand public.
Et une maladie rare, je suppose que c'est encore pire.
Eh oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a un chanteur qui nous a malheureusement quittés ça va faire bientôt 19 ans. Il souffrait d'une maladie rare. De qui il s'agit, à votre avis? C'est un Français.
Ne pas savoir quand viendra la fin. C'est toi qui...
Starac.
Star Academy, oui, c'est l'un des gagnants de la Star Academy.
Marie-Christine, allez.
C'est bien.
Grégory. Oui, ben...
Non, Grégory Le Marchal. Grégory Le Marchal a gagné la Star Academy, vous savez en quelle année?
Oh là là, il y a une vingtaine d'années.
Oui, c'était en 2004. Je me souviens que j'ai regardé cette famille, la finale avec ma famille, mes cousins, tout ça. C'était dans mon ancienne ville à Arras, dans les Hauts-de-France.
Ah, je savais pas que tu venais de là.
Oui, si, je viens des Hauts-de-France, tout à fait.
Ah, je pensais que tu étais dans l'Île-de-France depuis le début.
Non, j'ai grandi dans les Hauts-de-France.
Ah, bah, on en découvre tous les jours.
Bah oui.
Très jolie ville, Arras.
Bah oui, j'ai vécu à Arras jusqu'à mes 16 ans. Et du coup, Grégory Le Marchal, il s'est éteint le 30 avril 2007. Il s'apprêtait à avoir 24 ans. Et il est mort des suites d'une mucoviscidose. Est-ce que vous connaissez la mucoviscidose?
Oui, tout à fait.
Alors c'est une maladie génétique rare qui touche les voies digestives et respiratoires. Et ses proches, là, ils poursuivent son combat contre la maladie, ses proches, à savoir ses parents. Mais malgré la maladie, il a offert au public une voix puissante et une carrière courte mais fulgurante qui est devenue un symbole de courage et d'espoir. Et sa mort a quand même choqué bon nombre de gens car il était au sommet de sa popularité à 23 ans. Alors il y a un autre chanteur qui est décédé ça fait plus de 7 ans, mais il souffrait d'une maladie génétique rare. De qui il s'agit à votre avis?
Revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Est-ce que vous connaissez cette chanson? Ça vous dit quelque chose, cette chanson?
Non.
Pas du tout.
Bah, on va écouter le refrain, tiens, ça va sûrement vous dire quelque chose.
J'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans parole. vieilles les chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime.
Oui, là on connaît, oui.
Alors sa chanson de qui d'ailleurs, Douce France, c'est, qui chante ça?
Charles Trenet.
Oui, Charles Trenet, oui. Et là le chanteur c'est pas Charles Trenet, mais Rachida. Ça vous dit quelque chose?
Ah bah oui, oui, oui.
Rachida qui a fait partie d'un groupe Carte de Séjour dans les années 80, car c'est une reprise qu'il a faite dans les années 80. Et Rachida, il est décédé, beaucoup de gens l'ont connu avec ce titre Ya Raya, et même 1, 2, 3 Soleils avec Raleigh Defaudel dans les années 90. Et Rachida, il est mort en 2018, il s'apprêtait à avoir 60 ans. Il est mort après une crise cardiaque, mais il souffrait d'une maladie génétique rare, c'était la maladie d'Arnold Chiari.
Ah, oui.
Et son ami et producteur avait déclaré dans une interview au Parisien en 2018 à propos de Rachida, il n'utilisait presque plus son bras gauche, il avait une maladie génétique et la dernière fois qu'on s'est vu, il m'avait dit qu'il aimerait bien en parler un jour à la télé dans une émission de santé. Je n'ai pas osé lui demander de quoi il s'agissait vraiment, il était très discret sur le sujet. Et le principal concerné, Rachida, dans une interview à El Watan, il avait dit ceci: j'en ai marre que les gens me prennent pour quelqu'un de bourré sur scène, alors que ce sont les symptômes de la maladie d'Arnold Chiari. Cela génère un dérèglement dans le corps. J'aurais pu en parler depuis longtemps. Je ne voulais pas qu'on ait pitié de moi. Comme quoi, en France, le fait de la maladie, c'est quelque chose de tabou, hein.
Oh, pas qu'en France, je pense.
Oui, oui, on s'en doute.
Oui, mais avec les, quand même les Jeux Olympiques et tout ça, avec les Jeux Olympiques des handicapés, ça quand même.
Les Jeux Paralympiques, tu veux dire?
Les Jeux Paralympiques, oui. Je pense que ça a quand même fait tomber des tabous.
Oui, sans doute. Et cet artiste que je vous propose là, c'est un Anglais pour le coup. Il est mort des suites d'une maladie rarissime. De qui s'agit à votre avis? En tout cas, le groupe est mythique. Like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. C'est un groupe pop rock anglais. La chanson, ça vous dit, ça vous parle pas? Alors, le groupe, c'est Supertramp.
Ah oui.
Et la chanson s'appelle Goodbye Strong. Bah, je vous propose qu'on écoute le refrain de cette chanson. Alors en fait le chanteur c'est Rick Davies, c'est le cofondateur du groupe Supertramp. Il est décédé à l'âge de 81 ans, décide d'un myélome multiple. Vous savez ce que c'est?
grande cancer. Beauté.
Non, c'est un cancer hématologique qui est appelé aussi maladie de Kahler. C'est un cancer rare qui démarre au niveau de la moelle osseuse. Et cette maladie est due à l'accumulation anormale d'un type de globules blancs appelés les plasmocytes. Et c'est une pathologie qui se manifeste par des douleurs osseuses localisées dans le dos, les côtés et les hanches. Et c'est dont a souffert le regretté Rick Davis, je rappelle, membre incontournable de Supertramp. On termine avec un chanteur français. Peut-être Marie-Christine, tu connais.
Ma biche, moi je m'imagine.
Ma biche.
Oui, je connais, mais. Je me rappelle plus comment il s'appelle.
Il s'appelle Franck.
Franck Alamo.
Voilà, Franck Alamo, avec cette chanson Ma biche des années 60.
Oui, toutes les femmes le regardaient, les jeunes filles.
Ah bah, tu m'étonnes. Franck Alamo, et qui nous a malheureusement quittés. Vous savez comment il s'appelait d'ailleurs ?
Non.
Il s'appelait Jean-François Grondin.
Ah, d'accord. Rien à voir.
Bah non. Alors, en fait, il était atteint d'une sclérose latérale amyotrophique, tout à fait. On l'appelle aussi la maladie de...
Duchenne, non ?
Non, de Charcot.
Charcot, d'accord. Duchenne, c'est autre chose.
Il avait déclaré dans une interview il y a quelques années au magazine Ici Paris, il avait dit ceci à propos de sa maladie. « Je lutterai jusqu'au bout, vivre le plus longtemps possible. » Quand en 2008 j'ai appris que j'avais la maladie de Charcot et que tous les muscles dont les cordes vocales allaient être touchés, je me suis précipité dans un studio et j'ai enregistré une douzaine de chansons inédites écrites auparavant. Donc c'était une manière de laisser son empreinte. Et je crois que la maladie de Charcot, ça a atteint environ 8000 personnes en France. Hein. Peut-être un peu plus depuis. Mais ça reste quand même très rare. Je vous propose qu'on...
Heureusement.
Ah ben heureusement,
parce
heureusement.
Il n'y a pas de traitement, il n'y a rien.
Exactement. Je vous propose qu'on écoute un extrait de cette chanson Ma biche de Franck Alamo.
Laisse tes yeux sans rien autour. Pour moi ma biche, quoi que tu leur fasses, tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont les yeux de l'amour. Les yeux sont les yeux de l'amour.
Merci à tous.
Eh bien, merci Kevin. On va écouter un titre en entier.
Eh bien, moi, je vous propose qu'on écoute le regretté Rachid Tah avec Douce France.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chérie de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Je t'aime dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison.
Rachida, douce France.
On termine cette émission par de la culture pop. Dans la pop culture, les maladies rares sont représentées de différentes manières. Côté comics, les maladies rares représentent parfois l'entraînement de mutations chez l'individu et même des transformations physiques. Côté jeu vidéo, un jeu point and click autobiographique évoque une forme rare de leucémie dont est atteint le fils de 5 ans de Ryan et Amy Green. Dans le 7e art, des films l'évoquent comme le film Regarde d'Emmanuel Poulain-Arnaud où l'on suit un adolescent de 16 ans atteint de rétinite pigmentaire, une maladie rare qui entraîne une perte progressive de la vue. Le film, qui brille au combat de Joséphine Japy et inspiré de sa propre histoire, racontant le quotidien d'une famille dont la cadette Bertie est atteinte d'une maladie génétique rare. La maladie de Charcot, maladie neurodégénérative rare, est représentée dans des longs-métrages ou au travers de personnalités comme Olivier Goy, personnalité française dont la maladie a été traitée avec le documentaire Invincible, Été, ou encore le célèbre physicien et cosmologiste britannique Stephen Hawking, décédé en 2018. Eric nous explique dans sa chronique comment la sclérose latérale amyotrophique a représenté ce dernier dans la pop culture.
...1500 cas par an en France. On n'en connaît pas les causes. L'espérance de vie moyenne, c'est 3 ans.
On sait tous qu'on va mourir. Mais à partir du moment où les gens savent de quoi, à peu près quand, eh ben, la vie n'est plus du tout la même.
L'extrait que nous venons d'entendre est issu du documentaire Invincible Été, où l'on peut entendre une partie du témoignage d'Olivier Goy atteint de la maladie de Charcot, dont la sclérose latérale amyotrophique a été diagnostiquée en 2020. Cette maladie rare, pourtant considérée comme la moins rare des maladies rares, se fait connaître par la sensibilisation via divers documentaires et reportages, mais aussi par l'exposition médiatique de personnes à grande notoriété. C'est le cas par exemple du regretté Stephen Hawking, le célèbre physicien, théoricien et cosmologiste britannique. Déclaré depuis ses 21 ans, il souffre d'une forme rare de début précoce et d'évolution lente de sclérose latérale amyotrophique. Sa maladie a progressé d'année en année et il en est devenu presque paralysé. Rendu célèbre pour ses travaux dans les domaines de la cosmologie et de la gravité quantique, notamment sur les contributions autour du sujet des trous noirs, il a retenu l'attention du public d'une manière générale grâce à ses ouvrages de vulgarisation scientifique. Les livres, comme Une brève histoire du temps, paru en 1988, et L'origine du temps, son dernier essai paru en 2023, soit 6 ans après sa mort, font partie de ses succès.
À Steven.
Merci beaucoup.
Joyeux anniversaire. Toutes ces étoiles et nous ici. Il faut rentrer.
Tu ne dois pas me lever.
Très drôle.
Je ne peux pas me relever.
Je vais chercher de l'aide.
Dites-moi ce que j'ai.
Sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. 2 ans peut-être, pas davantage.
Steven!
On ne peut plus rien pour vous.
Vous pourriez lui recommander un sujet assez facile.
J'essaie de ne jamais tricher avec eux.
Je veux que mon travail ait un vrai sens. Je suis persuadé que, aussi petits que nous soyons, aussi insignifiants que nos efforts puissent paraître, nous pourrons un jour avoir une compréhension totale de l'univers. Et essayez d'imaginer une inversion complète de la direction du temps. Il suffit d'inverser le temps pour que l'effondrement devienne une explosion. Le temps n'est pas aussi universel qu'on le dit.
Hawking est une exception car quand les médecins ont diagnostiqué sa maladie, ils ont pensé à un pronostic d'espérance de vie à moins de 3 ans. Ce diagnostic datait de ses 21 ans, comme je le disais, et il est mort 55 ans plus tard. D'après l'article de Sarah Sermon-Dadaz pour le magazine Science et Avenir, alors que Stephen Hawking fêtait ses 60 ans en 2002, le British Medical Journal, BMJ, célèbre revue scientifique d'outre-Manche, revenait sur ce cas fascinant pour les neurologues. Les patients survivent en moyenne 14 mois après que le diagnostic a été établi, a expliqué au BMJ Nigel Lake, professeur de neurologie clinique au King's College de Londres. En parcourant le même article, on apprend que Stephen Hawking, en réponse à la publication britannique, a expliqué avoir recours à un régime particulier, enrichi en vitamines et acides gras et sans gluten. Il a suivi des fréquentes séances de physiothérapie afin de ralentir l'atteinte musculaire. J'ai eu la SLA pendant presque toute ma vie adulte, ça ne m'a pas empêché de réussir mes projets professionnels. J'ai eu de la chance que ma maladie progresse plus lentement chez moi. Cela montre qu'il ne faut pas perdre espoir, expliquait le physicien.
Allez, lève-toi.
Bonjour, Brian.
Stéphane, tu as conscience que tu t'es embarqué de toi-même dans un doctorat en physique?
Salut.
Salut.
Étudiant en sciences.
Moi, en lettres.
Si j'inversais le temps pour savoir ce qui a pu se passer au commencement.
Remonter le temps.
Remonter le temps.
Continuez.
J'ignore comment.
Pour l'instant.
Continue de remonter.
Jusqu'où?
Ça s'appelle la sclérose latérale amyotrophique. L'espérance de vie est de 2 ans.
Je veux que nous profitions ensemble du temps qui nous reste. Nous allons lutter ensemble contre cette maladie.
Comment allez-vous?
Plutôt bien.
Dites donc, cette histoire de trou noir au début du temps, c'est brillant, très brillant, Stéphane. Bravo, docteur.
Il a une pneumonie. La seule solution pour qu'il survive, c'est de pratiquer une trachéotomie. Il ne pourra plus jamais parler.
Mais si, il parlera.
Je m'appelle Stephen Hawking.
C'est pas très naturel.
Ça vous pose un problème?
J'ai eu la joie incommensurable dans ma vie de voir cet homme relever les défis les plus invraisemblables, tant sur le plan scientifique que personnel.
Rien ne doit limiter l'activité humaine. La vie n'est pas toujours belle. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Caractérisé par la voix de synthèse et fatalement par ses déplacements en fauteuil roulant électrique, celui-ci est souvent représenté dans la pop culture comme guest star. On pense bien entendu à ses apparitions dans les séries animées Les Simpsons ou encore Futurama. Hawking a fait aussi une apparition en 1993 dans Star Trek The Next Generation. C'était une personne qui avait beaucoup d'humour et il faut dire une pointe d'autodérision aussi. Il était très ouvert. Et ses travaux mêlés à sa personnalité fait de lui un super copain de la pop culture. Stephen Hawking décède le 14 mars 2018 à l'âge de 76 ans, le même jour où est célébré Pi et Albert Einstein. À travers de multiples hommages, un enregistrement sonore de 6 minutes comprenant la voix du scientifique accompagné d'une composition du musicien Vangelis a été envoyé à une distance d'environ 3500 années-lumière vers le trou noir le plus proche de la Terre. Et c'est d'ailleurs avec un extrait de ce morceau que je vous salue, amis de la pop culture.
I am very aware of the preciousness of time. Seize the moment. I have spent my life traveling across the universe, inside my mind.
Merci Eric. Et on repart en musique, Kevin, avant de se quitter.
Eh bien, je vous propose Supertramp, Goodbye Stranger.
Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover. What you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as a ship out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me. Troubles will be few. Shining.
Super Tramp, Goodbye Stranger.
Et cette émission sur les maladies rares, c'est déjà fini.
Oh non.
Si vous avez loupé le début de l'émission, si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios dont vous retrouverez la liste sur bigbangstation.fr. On se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous propose la citation suivante. Travailler avec une maladie invisible, c'est souvent devoir prouver ce qui ne se voit pas.
Salut à toutes et à tous, la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau thème, l'obésité. Salut à toutes et à tous.
Salut, prenez soin de vous.
Ok, let's stop.
Et le monde va pas bien.
Ça brûle, ça faille, pas top pour demain.
Mais demain c'est demain, aujourd'hui il y a du tard.
Il y a des patients perdus auxquels on fait moins gaffe.
Chers collègues, dans ce texte, je vous parle de mon quotidien.
C'est de chercher une aiguille dans une patte de foin.
Aider au diagnostic d'un bug génétique. Pour que rare rime enfin avec thérapeutique.
Je parle patient, tous les jours, tout le temps, j'agis pour les patients. Se battre contre les rangs, c'est une quête intense. Inspirer la confiance, ça donne tout son sens.
Jamais lâcher l'affaire, toujours rester partenaire. Le secret dans le bar, c'est la persévérance. Ça paraît précieux, il faut saisir sa chance. La chance de s'engager et de s'impliquer.
Jamais rien sans l'écrit, ça c'est mon principe. Je compte sur toi et tu comptes sur moi. Finalement bienveillance, ça peut avoir du sens.
S'il n'y avait pas cette confiance, nous serions dans l'errance.
Je me couche ce soir, le monde broie du noir.
Seulement voilà, moi je sais qu'il y a de l'espoir.
L'espoir pour les malades, vous n'êtes plus orphelins.
Dites-vous bien qu'on est là et qu'on vous tend la main.
IDFM Radio, 98 FM.
Un arbre sans écorce, un mariage sans divorce, des enfants sans emmerde. Des souvenirs sans regret, souffrir sans progrès, mon ami, mais tu rêves. Un cadeau sans merci, un château sans amis, une ombre sans lumière. Grandir sans racines, une euro sans épines, mon ami, toi tu rêves. Alors rêve. Ne te réveille pas, non, oui, rêve, rêve. Tu te réveilleras plus. Alors rêve, rêve. Ne te réveille pas, non, oui, rêve, rêve. Tu te réveilleras plus. Tu te réveilleras plus. travail, s'embrasser sans amour. Atterrir sans envol, une chanson sans Paul, mon ami, mais tu en rêves. Un été sans hiver, un demain sans hier, une joie sans tristesse. Une soirée sans copain, une partie sans topin, mon ami, mais tu rêves.
Alors rêve, alors rêve.